Un, deux. C'est pas Sport Open, si jamais. C'est pas du tout celui-là. J'aimerais dire un petit mot concernant la joie que j'ai de louer le Seigneur ce matin. J'aimerais vraiment remercier l'Église. Vraiment, de tout mon cœur, je réalise l'implication et le haut niveau d'engagement de chacun et chacune. Nous avons eu beaucoup de changements, que ce soit pratiques, on parle de Sono en ce moment, mais beaucoup d'autres choses, ou que ce soit quand je vois l'Église, voilà, vous savez qu'un pasteur, il est quand même la semaine à l'Église, donc je vois vraiment tous ceux qui s'engagent de près ou de loin, et dans les activités, dans le service, et j'aimerais vraiment remercier l'Église, que ce soit dans la prière, que ce soit dans tous les différents secteurs. Je suis très fier de notre Église. Je suis très fier de faire partie de l'équipe qu'on est et de voir votre haut niveau d'engagement, vraiment. Et je vous remercie vraiment pour tout ce que vous faites bénévolement, en plus du temps que vous avez, voilà, que vous avez tout ce que vous devez faire à côté de votre travail. Et j'aimerais vous dire merci pour vraiment vos prières, pour votre engagement. Vous faites beaucoup de choses. Alors, je suis vraiment très fier de vous et je suis très reconnaissant ce matin dans la louange. J'avais vraiment à cœur de vous dire cela. Et on va continuer ce matin notre série sur le jeûne et la prière. Voilà. J'ai pas dit ça avant pour vous aider à supporter le thème du jeûne et de la prière, mais vraiment c'était sincère. Et je crois que c'est un thème. On pourrait se dire, oh, le jeûne et la prière, encore un truc. Avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait, c'est encore un truc de trop. C'est encore un truc lourd à porter. On a déjà assez de soucis. Mais en fait, quand on réalise ce que c'est le jeûne et la prière, alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on entre vraiment dans ce que c'est quelque chose d'absolument magnifique. Et voilà, on avait Salomé qui nous avait partagé un moment maintenant, le 14 septembre, elle nous a partagé donc sur le jeûne et la prière, parce qu'on lance actuellement, on est dans ce processus de lancer notre mouvement de jeûne et prière, nos mardis jeûne et prière en église. Que ce soit en présentiel ou à la maison ou sur notre lieu de travail, que ça devienne un nouveau mouvement. On en parlera tout à l'heure à la fin de ce message. Donc on est dans cette série pour vraiment en parler, vraiment en profondeur. Qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est vrai que c'est pas souvent qu'on en parle de ce thème. Peut-être rappeler la définition qu'on avait vue la dernière fois. C'est quoi le jeûne ? C'est bien de rappeler que le jeûne, c'est une pratique spirituelle qui consiste à s'abstenir volontairement de nourriture pour un certain temps dans le but de se rapprocher de Dieu. Et il est accompagné par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais la prière, on en parle souvent. On en parle souvent de la prière dans l'Église. On prie souvent aussi ensemble. C'est quelque chose qui fait partie. On dit la prière, c'est la respiration de l'âme. Il y a tellement de livres sur la prière. Mais il y a beaucoup moins d'enseignements ou de discussions autour du jeûne. Alors c'est vrai que quand on jeûne, on ne doit pas le dire. La Bible nous dit qu'il faut se parfumer la tête, il ne faut pas prendre un air triste comme les pharisiens. Mais c'est vrai que ce n'est pas un sujet qu'on aborde souvent. Vous êtes d'accord ? C'est un thème qui est pas souvent traité. Et dans un livre sur le jeûne, quelqu'un qui a fait une recherche sur le jeûne, voici ce qu'il disait. Il disait que pendant son enquête, il a essayé de trouver tout ce qui avait été écrit sur le jeûne dans toute l'histoire même de l'Église et tout ce qui était autour de lui. Et il dit que pendant mon enquête sur le sujet, je n'ai pas trouvé un seul livre sur la question du jeûne chrétien qui a été publié entre 1861 et 1954. Quand même 100 ans. Alors c'est sûr que c'est un moment, mais 100 ans, pas un seul livre sur le jeûne qui avait été publié dans le milieu chrétien de l'époque. Et je trouve que c'est intéressant de voir que c'est un sujet qui est peu abordé. Alors je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi c'est un sujet qu'on aborde peu ? Et très vite, j'ai réalisé qu'il y avait pas mal d'objections qui viennent quand on pense aux jeunes, Quelles sont les objections courantes par rapport aux jeunes? Alors, j'aimerais en voir plusieurs avec vous ce matin. Alors, certains, par exemple, vont dire que le jeûne, c'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà, c'est pas quelque chose de courant, c'est pas quelque chose qu'il faut pratiquer souvent. C'est juste dans les grands moments de notre vie, peut-être les grandes décisions de notre vie, de mettre un temps pour le jeûne et la prière. C'est pas pour tout de suite. C'est voilà, peut-être un jour. Vous savez, c'est la même parole qu'on dit, peut-être un jour je donnerai ma vie au Seigneur. Là, je suis jeune, je veux vivre. Peut-être un jour je donnerai mon cœur à Jésus. Quand je serai proche de la mort, voilà, je m'approcherai de Dieu. On entend des fois ça. Eh bien, pour le jeune, par moment, on a un petit peu ce sentiment-là. Et en fait, quand on regarde l'histoire de l'Église, le jeûne était considéré comme une discipline chrétienne qui était pratiquée régulièrement. Et si on prend un ouvrage qui a été publié il y a très longtemps, le premier écrit primitif qui s'appelle la Didaké, ça veut dire l'enseignement en grec, c'est il prescrivait 2 jours de jeûne par semaine, le mercredi et le vendredi. Voilà, demandez-moi pas pourquoi c'était ces jours-là. C'est un ouvrage très pratique, hein, la Didaké. C'est des conseils pratiques pour la vie d'église, pour le chrétien, etc. C'est un écrit qui a été écrit à la fin, après le Nouveau Testament et avant les premiers écrits apostoliques. Donc, c'est-à-dire entre le milieu du 1er siècle et la fin du 1er siècle. Donc, vous imaginez, c'est un des plus anciens écrits chrétiens pour l'église que nous avons. On pourrait dire entre 50 et 90 après Jésus-Christ. Et la Didaké, c'est une bonne photographie de ce que l'Église primitive vivait au début, de ce que l'Église vivait et de ce qu'elle elle pratiquait. Et alors, c'est pas un écrit canonique, hein, c'est pas la même autorité que la Bible, mais c'est intéressant de la lire. Il y a beaucoup de petits détails qui sont donnés. Hein. S'il n'y a pas assez d'eau pour baptiser, alors vous pouvez baptiser avec un peu d'eau. Voilà, ils expliquent des choses très, très concrètes. Et ils parlent justement du jeûne. Et c'était très respecté comme ouvrage. D'ailleurs, vous voyez, un des titres, c'est la Didaké, ou ça s'intitulait soit l'enseignement des 12 apôtres. Donc, vous voyez un petit peu l'autorité que ça avait à cette époque-là. Ou on pouvait l'appeler aussi la doctrine du Seigneur transmise aux nations par les 12 apôtres. Vous voyez que c'était vraiment conséquent, cet ouvrage. Et on voit que par la suite, il y a eu des conciles au début de l'histoire de l'Église. Et au 6e siècle après Jésus-Christ, il y a eu un concile à Orléans où ils ont rendu le jeûne obligatoire. Vous savez, dans la loi, quand une habitude est prise, ça devient un texte de loi, très souvent. À partir d'un moment, on le voit dans la société, dès qu'il y a des choses qui sont, il y a des changements, les lois suivent souvent les habitudes. Donc c'est ce qui s'est passé là, quelque chose qui était tellement pratiqué dans l'Église primitive que finalement c'est devenu une loi. Enfin, ils en ont fait une loi, voilà, ils ont obligé, c'est devenu obligatoire. Alors c'est pas ce que la Bible nous dit, on le verra. Si on avance un petit peu dans l'histoire de l'Église, on va pas faire toutes les fois où il est parlé du jeûne, il y en a beaucoup, mais si on avance un peu, par exemple, lors des moments de réveil aussi, dans l'histoire de l'Église, le jeûne a été remis au goût du jour, dans les moments de réveil. Par exemple, au XVIIIe siècle, John Wesley, qui était un homme de réveil donc en Angleterre, qui était un prêtre anglican, qui a voulu réformer l'Église anglicane, mais qui n'a pas réussi, donc du coup il a fondé l'église méthodiste, le mouvement méthodiste. Il a cherché à faire revivre l'enseignement de la Didaké, par exemple. Et il exhortait les premiers méthodistes, ceux qui étaient dans ce mouvement avec lui, à jeûner le mercredi et le vendredi. Et il accordait tellement d'importance à cela que pour ceux qui devaient s'engager dans le ministère, être ordonnés dans le ministère, s'ils ne jeûnaient pas, eh ben ils ne pouvaient pas être ordonnés, justement. Donc, il apportait vraiment une importance grande à cela. Alors, oui, vous me direz, certes, la Bible n'oblige pas le chrétien à jeûner. Régulièrement, je parle, hein, pas occasionnellement. La liberté est laissée par l'Évangile. Mais lorsqu'on voit l'histoire de l'Église, lorsqu'on voit la pratique régulière que l'Église faisait avec le jeûne, on se dit qu'elle fait partie des disciplines chrétiennes au même titre que prier et lire la parole de Dieu, et l'étudier et la méditer. Elle fait partie au même titre que les disciplines du service, de servir Dieu avec nos dons. L'apôtre Paul jeûnait régulièrement, pas juste occasionnellement. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 27, il va dire, il détaille tout ce qu'il fait au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes. Pas occasionnellement, pas quelquefois, mais souvent. La deuxième objection du jeûne, souvent, c'est qu'on pense que le jeûne, c'est réservé à une élite. Justement, l'apôtre Paul, justement, ceux qui sont appelés au ministère, parce qu'eux, ils doivent beaucoup prier, ils doivent donc jeûner aussi. Ça ne doit pas être souvent les pasteurs, parce qu'ils sont souvent assez, assez bien en chair. On dit souvent que le pasteur. Bon, pas tous, hein, heureusement. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, voilà, est-ce que c'est vraiment lié à le ministère ? Oui, Jésus, il a jeûné, c'est vrai, 40 jours, mais c'est Jésus, 40 jours, waouh, c'est Jésus, c'est pas moi. C'est une objection qui est là. Et même du temps de Jésus, on dit, oui, c'est les pharisiens qui jeûnent. Oui, les pharisiens, c'est ceux qui savent la loi, c'est ceux qui sont... C'est l'élite aussi, de nouveau. L'élite de l'époque. Mais lorsque Jésus en parle, du jeûne, il en parle dans le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est cette série de discours que Jésus donne dans l'évangile de Matthieu sur plusieurs chapitres. C'est un peu les fondements du chrétien, de la vie chrétienne. C'est quelques chapitres où il est parlé des béatitudes que nous connaissons bien, beaucoup de textes que nous connaissons. Et voilà qu'il en parle, c'est un concentré de l'enseignement de Jésus. Et il y a plusieurs choses qui sont dites dans ces chapitres. Mais quand on regarde à qui il s'adresse à ce moment-là, le sermon sur la montagne, c'est en Galilée, sur les collines, Jésus qui parlait, il parlait à qui ? Il ne parlait pas juste à ses disciples, il parlait à une foule nombreuse. Des jeunes, des moins jeunes, des parents, peut-être les enfants étaient là aussi avec eux. Parce qu'il n'y avait pas de système de crèche au 1er siècle, je crois, pour les maîtres. Voilà qu'ils étaient sans doute... Il parlait à toute cette foule qui était là, qui l'écoutait. C'est-à-dire tout le monde, tout le monde. Et quand il en parle, regardons quand il en parle, dans le chapitre 6, justement, Jésus va l'incorporer dans trois petits discours qu'il met ensemble sur le fait de donner l'aumône, c'est le discours sur l'aumône, juste après c'est le discours sur le jeûne, et ensuite c'est le discours sur la prière. Vous voyez que le jeûne est en sandwich entre donner et prier. Il est vraiment là au cœur de cela. Et Jésus nous parle de ça comme la base de la vie du disciple. Prier, jeûner, donner. Donner, c'est donner financièrement, c'est donner de son temps. C'est d'ailleurs littéralement les actes de bonté et de bienveillance que nous exerçons. C'est la générosité sous toutes ses formes. Alors pourquoi est-ce qu'on exclurait le jeûne, en fait ? Jésus a associé les trois. Alors, prier oui, donner oui, mais jeûner pourquoi ? Pourquoi jeûner ? Et si on fait un zoom sur la partie du jeûne, il dit « lorsque vous jeûnez », dit Jésus. Jésus semble partir du principe que les gens jeûnent, que ça fait partie de ce que les gens font, de ce qu'ils sont en train de l'écouter en ce moment, et il donne des instructions sur la façon de le faire correctement. Lorsque vous jeûnez, sentez. Lorsque vous éternuez, et lorsque vous jeûnez. Martin Luther disait, Christ n'avait pas l'intention de rejeter ou de mépriser le jeûne ici. Son intention était de revenir à un vrai jeûne, par opposition à celui que pratiquaient les pharisiens.
Et il serait faux ici, bien sûr, de dire que Jésus nous ordonne de jeûner, bien sûr. Hein. À ce moment-là, Jésus donne des instructions sur ces trois choses fondamentales, que sont la prière, l'aumône et le jeûne. Et il donne des conseils pratiques pour pratiquer le mieux possible. Il n'est pas en train de dire ici qu'il faut l'abandonner ou bien il jeûne, mais c'est n'importe quoi, on ne doit pas jeûner. Il n'est pas en train de dire ça, Jésus. Mais il ne dit pas aussi si vous jeûnez. Il n'est pas en train de dire qu'il faut absolument jeûner à ce moment-là. Il ne dit pas non plus vous devez jeûner. Il se contente juste de dire quand vous jeûnez, comme si c'est quelque chose qui faisait partie de la vie culturelle, de la vie spirituelle de ses auditeurs. Alors, on ne peut pas se baser là-dessus pour dire que Jésus nous commande de jeûner. Par contre, il y a un autre passage où Jésus, à un moment donné, nous pouvons clairement dire que Jésus nous demande de jeûner. C'est ce que Salomé avait partagé lors de son premier message sur le jeûne, dans ce texte de Matthieu 9, où Jésus dit « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Il me semble que c'est peut-être la déclaration la plus importante sur le jeûne dans la bouche de Jésus. Ils jeûneront quand l'époux ne sera plus là. Jésus n'est pas en train de se poser la question si les chrétiens doivent jeûner ou pas. Il dit « ils jeûneront ». Et nous voyons que dès que Jésus a été élevé au ciel, qu'il est monté au ciel, que l'époux est parti, et qu'il reviendra de la même manière, alléluia, qui posera ses pieds sur le mont des Oliviers, et nous l'attendons. Mais que dès que l'époux est parti, qu'est-ce que l'Église a fait ? L'Église primitive, on le voit dans le livre des Actes, elle a commencé à jeûner. Elle a commencé à jeûner. Par exemple, dans l'Église d'Antioche, c'est une Église où il y avait un réveil, ça foisonnait, il y avait des prophètes, des docteurs dans cette Église, il y avait toutes sortes de gens de différentes nationalités multiculturelles, comme l'Église aujourd'hui, multiculturelle. Voilà tous ces gens qui sont cités. Et voilà que tous ces gens ensemble célébraient le culte du Seigneur et qu'est-ce qui est associé au culte du Seigneur ? Et qu'ils jeûnaient. Et c'est dans ce moment-là, bien sûr, que le Saint-Esprit va mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre qu'il avait prévue pour eux, qui sont les premiers voyages apostoliques de l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qu'il fait encore après ? Pour être sûr et bien sûr que c'est Dieu leur avait parlé dans ce moment de jeûne et prière, ben ils ont encore rejeûné et ils ont encore reprié. Ben ça, c'est ici, vous. Deuxième couche, vous voyez ? Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains pour les envoyer. Et le livre des Actes, mes amis, on y est toujours. Le livre des Actes, c'est ces 28 chapitres qui racontent le début de l'histoire de l'Église. Mais nous sommes l'Église. Nous sommes dans la continuité de l'Église primitive, de l'Église apostolique. Nous sommes l'Église. Et nous continuons à écrire les chapitres du livre des Actes des apôtres, avec vos noms, vos prénoms, avec vos temps de prière, avec l'Église qui avance, l'Église qui se développe et le mouvement de réveil qui l'accompagne. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est un appel à toute son Église. C'est un appel global et individuel. Pour celui qui aspire à marcher avec Dieu, Jésus nous invite à son appel à chercher la présence de l'époux, à chercher la voix de l'époux, à chercher ce royaume de Dieu qui doit grandir en nous, autour de nous et au-delà. Troisième objection que nous avons par rapport aux jeunes, si ce n'est pas le jeune n'est pas pour une élite, c'est pour tout le monde, Dieu n'est pas légaliste. Dieu est grâce. Souvent, on pense que le jeûne, c'est vraiment le Moyen-Âge, franchement. Au Moyen-Âge, ça marchait bien. C'était un moment assez ascétique. Il y avait plein de choses horribles qu'on faisait au Moyen-Âge. On se faisait souffrir de toutes les manières. C'est bon, on a un petit peu évolué, quoi. On n'est pas le Moyen-Âge. Dieu ne nous demande pas tout cela. Non. Non, 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 non. Dieu est grâce. Il ne veut pas nous voir souffrir. Il veut notre bien. Il veut qu'on soit bien. Donc, vous me voyez venir un peu. Il veut... C'est le christianisme wellness. Il veut que nous soyons bien dans le jacuzzi spirituel. Et il nous masse les épaules. Et nous sommes au bain de Saillon à être massés par le Seigneur. Alléluia. Je pense à Xavier qui était avec son épouse le week-end passé là-bas. Et je me réjouis d'y aller avec mon épouse un jour. Voilà, non, c'est vrai. Dieu, il est là pour ton bien. Dieu est bon, Dieu est bienveillant. Ce n'est pas un Dieu qui veut te voir souffrir, parce que c'est souffrir. C'est ne pas manger, c'est de la maltraitance, en fait. C'est de la maltraitance. On devrait te dénoncer si tu proposes ça à l'Église. Et c'est vrai que dans une société où, finalement, on nous invite finalement à... Toutes les ressources sont en toi, trouve ton plein potentiel, laisse aller tes passions, assouvis tes désirs. Si tu as envie de le faire, vas-y. Si tu es en étude d'avocat et que tu veux te lancer dans une carrière de golf, mais vas-y. J'ai lu ça un article dernièrement, c'était trop drôle. Il a tout arrêté et il a fait du golf. C'était fou, quoi. Mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Vas-y, fais-le, quoi. Vas-y si tu as envie de faire ça, mais écoute-toi surtout. N'écoute pas les autres, ceux qui veulent t'arrêter, ceux qui veulent te mettre des jougs sur toi, etc. Il y a du vrai là-dedans, mais il y a aussi beaucoup cette ambiance dans laquelle on peut baigner cette prospérité. Cette société, finalement, d'ailleurs, qui est parfois très exigeante et très à l'inverse, ça, c'est le monde, quoi. C'est vas-y, développe-toi, puis en même temps, bam, on t'en demande tellement, et une sorte de course à la performance énorme. Mais c'est vrai que on peut être influencé, les chrétiens, avec ça. Bien sûr que c'est le cœur de Dieu, que Dieu est généreux, il est bienveillant, il nous veut du bien. Mais malheureusement, nous sommes habitués à cette grâce à bon marché. Et ça, ce n'est pas une expression qui vient de moi. Cette grâce à bon marché, c'est une expression d'un homme qui s'appelait Dietrich Bonhoeffer, qui a vécu à une période compliquée de l'histoire de l'Église. C'était avant la Seconde Guerre mondiale, avant avec la montée du nazisme et de Hitler. Un homme qui était dans la résistance. Et il savait ce que c'est que le prix à payer. Il savait ce que c'est. Il l'a payé même du prix de sa vie. En 45. Et c'est un homme qui s'est levé contre un Allemand, qui s'est levé dans l'Église contre la montée du nazisme, Dietrich Bonhoeffer. Et lui, il va dire, la grâce à bon marché, c'est justement cet évangile wellness, cet évangile du compromis, cet évangile de la bonne température du jacuzzi. Ni trop chaud, ni trop froid. Juste bien pour que tu sois bien. Si tu es dans un inconfort, c'est pas bien. Et voilà qu'il va dire, on va le laisser parler un petit peu, voilà ce qu'il dit. La grâce à bon marché, c'est la prédication du pardon sans repentance. C'est le baptême sans discipline ecclésiastique. C'est la Sainte Cène sans confession des péchés. C'est l'absolution sans confession personnelle. La grâce à bon marché, c'est la grâce que n'accompagne pas l'obéissance. La grâce sans la croix. Jésus a dû mourir sur la croix et a dû obéir à son Père. Il n'y avait pas d'autre chemin. Et nous, on passerait à côté de notre croix. C'est pas possible. Si Jésus, sans péché, Jésus, homme Dieu, a dû passer par la croix parce que c'était obligatoire à cause du péché, à combien plus forte raison nous ? La grâce sans la croix, la grâce abstraction faite de Jésus-Christ vivant et incarné. La grâce à bon marché, c'est la grâce, c'est un christianisme sans force. C'est un christianisme sans puissance. C'est un christianisme sans efficacité. C'est ça la grâce à bon marché. Il y a un terme que les évangéliques, charismatiques particulièrement, aiment beaucoup, c'est l'onction. Vous avez déjà entendu ce mot onction ? On le met un peu à toutes les sauces. C'est l'onction de tel prédicateur. Oh, mais celui-là, quand il fait la louange, mais il a une telle onction. En fait, ce qu'il y a derrière ce mot onction, c'est que c'est celui qui est oint, qui a reçu l'onction. D'ailleurs, c'est Jésus, c'est le mot Messie, Machia en hébreu, qui a donné Christ en grec. C'est l'onction, c'est ça. C'est en fait celui qui a reçu la la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est Christ qui a reçu ça et qui nous donne son onction, qui nous donne sa présence. Donc l'onction est souvent liée à la puissance et l'action de Dieu et à la présence de Dieu. Mais l'onction, elle a un prix. C'est le jeûne et la prière. Le salut n'a pas de prix. Tu es sauvé. Dieu t'a sauvé. Tu n'as rien à faire. Et si tu es encore pécheur, tu es sauvé par grâce. Mais l'onction, cela peut nous coûter. Ce n'est pas la grâce à bon marché, c'est la grâce qui coûte. La grâce de Dieu qui coûte. Je vous citerai une citation que j'ai vue d'une pasteur, Johanna Expriat. Je ne sais pas si c'est d'elle, mais en tout cas, elle l'a citée. Elle dit « Sans onction, la louange n'est qu'un son. La prédication, que des mots. L'imposition des mains, qu'une méthode. L'église, qu'un club. La lecture de la Bible, qu'une histoire. Le suivi des gens, de la psychologie humaniste. L'évangélisation, que de la publicité. Et les baptêmes, une tradition. Les voyages missionnaires, ça doit te plaire, Salomé. Du tourisme. Et notre christianisme mourra. C'est ça la réalité. Et c'est contre ça que Dietrich Bonhoeffer s'est aussi élevé à son époque, face à l'apathie de l'Église, face au combat qui venait, à laquelle il était confronté. Et une dernière objection que nous avons par rapport aux jeûnes, au-delà de penser que c'est, et qui nous empêche aussi de jeûner régulièrement, c'est très souvent un manque de connaissance. On n'a jamais appris à jeûner. On n'a jamais appris comment jeûner. On n'a jamais vu le bénéfice aussi du jeûne dans nos vies. Et je le dis moi-même pour ma propre vie. Pendant longtemps, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait, le jeûne. Je vous dis franchement, je suis un bon vivant, j'aime bien la vie, mais jeûner, non. Non, c'était pas quelque chose que je pratiquais. Même en étant pasteur, je me disais non. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, Christian, il faut jeûner. Ok, d'accord. Comment? Alors j'ai essayé comme j'ai pu, mais c'était dur et j'y arrivais pas. Et puis après, Dieu m'a guidé, Dieu m'a montré par des personnes, j'ai pu jeûner avec des personnes, et Dieu a été là. Et vous savez, Dieu ne demande pas qu'on devienne des spécialistes du jeûne, il demande juste de faire un premier pas. Et vous savez, même en étant pasteur, j'ai dû apprendre à jeûner. Si un pasteur peut apprendre à jeûner, alors tout le monde peut apprendre. Trop souvent, on a mal jeûné. On n'a pas appris à jeûner. Et ce sera mon prochain message, que j'aimerais vraiment consacrer totalement à cela, les obstacles qui nous empêchent de jeûner. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas au bout du jeûne? Et souvent aussi, il y a non seulement les obstacles, mais on a aussi jeûné dans le but d'obtenir une faveur de Dieu, qu'il fasse ce que nous voulions. Souvent, on a pris le jeûne sous cet angle-là, alors que le jeûne, c'est Dieu qui veut que nous fassions sa volonté. Amen. C'est Dieu ne veut pas qu'on le force à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas par nos œuvres, même par le meilleur des jeûnes, qu'on va forcer la main de Dieu. Non, et des fois, on a insisté tellement sur les bénédictions et les bienfaits du jeûne, comme je vous l'ai fait un peu miroiter tout à l'heure, la puissance, l'action de Dieu, qu'on a pris le jeûne comme un moyen pour faire pression sur Dieu et pour, même un petit jeûne, pour vraiment faire bouger tout ce que nous voulions dans le monde, et même Dieu y compris. Le jeûne doit être centré sur Dieu. Il doit avoir Dieu pour origine et être ordonné par lui. Comme la prophétesse Anne, qui servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. C'est un service. Tous les autres buts doivent céder face à Dieu. Vous savez, c'est comme cette pratique régulière que l'Église primitive faisait. Ils célébraient le culte du Seigneur et il jeûnait. Ça doit se vivre ensemble. C'est quelque chose, le jeûne et la prière, qui doit nous amener plus proche de Dieu, qui doit nous amener à voir comment nous sommes devant Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va changer, c'est nous qui allons changer. Ce n'est pas je vais faire un procès à Dieu pendant le jeûne pour tout ce qu'il ne m'a pas donné. Qu'est-ce que je vais faire comme procès avec Dieu ? Dieu est Dieu. Dieu est sans péché. Dieu est parfait. Dieu est bienveillant. Dieu est pur. S'il y a bien un problème, c'est de notre côté. Et c'est ça que le jeûne met en lumière et nous amène finalement à enlever les obstacles qui nous empêchent de nous approcher de Dieu. Tellement de choses sont entre nous et Dieu. Et Spurgeon, un prédicateur et un pasteur britannique, disait « Nos moments de jeûne et de prière au tabernacle, donc son église, ont été de grands jours en vérité. Jamais la porte du ciel n'a été plus largement ouverte. Jamais nos cœurs ont été plus près de la gloire centrale. » Le but du jeûne est là pour nous rendre plus conformes à l'image de Jésus-Christ. Le jeûne révèle nos cœurs, les passions cachées, l'orgueil tapis, la colère enfouie et bien d'autres choses. Et il les met en lumière et nous permet de discerner ce que le Seigneur veut changer en nous. Le but du jeûne est de labourer le terrain de nos cœurs et d'en enlever les pierres, les chardons et les mauvaises herbes, afin que la semence de Dieu, la parole de Dieu, puisse pousser avec abondance, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles entendent sa voix. Et en assujettissant notre chair par le jeûne, en associant le jeûne à notre prière en fait, c'est le combo parfait, on va dire. C'est de les mettre les deux ensemble qui va produire cela, c'est en associant à nos prières, en associant le jeûne, alors j'entends plus distinctement la voix de Dieu, la voix de l'époux, la voix de celui qui me libère, la voix qui me transforme. Nous entrons dans une plus grande efficacité dans la prière d'intercession. Nous ouvrons une ligne de conduite plus grande, plus clair dans nos choix professionnels, dans nos choix familiaux, dans nos rapports les uns aux autres. Nous avons un meilleur discernement, une meilleure concentration. Celui qui est asservi, il est libéré. Il est libéré de toute oppression. Nous trouvons même le bien-être physique, parce que c'est un nettoyage de l'âme en profondeur qui finalement, tellement de choses sont liées de manière psychosomatique. Les études même sur le stress que nous vivons en société produit tellement de choses dans nos vies. Produit de l'obésité, produit des maladies cardiaques, produit tellement de choses. On voit qu'il y a un lien entre notre âme, notre être intérieur, notre spiritualité et notre physique. Et bien d'autres choses. Et surtout, nous avons une acuité pour des révélations spirituelles. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Et Dieu parle à notre esprit. Et voilà que Dieu récompense ceux qui le cherchent avec obéissance. Jeûner peut apporter des découvertes sensationnelles dans le monde spirituel qui ne se produirait jamais autrement. Alors comme le dit Ésaïe, je terminerai avec ça, ta lumière se lèvera sur les ténèbres. Ça, c'est le bénéfice du jeûne. Et ton obscurité sera comme le midi. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'obscurité qui va t'envahir. L'Éternel te guidera constamment. Il te rassasiera dans les lieux arides. C'est un état, quand on arrive à entrer dans cette dimension-là, vous êtes dans une situation compliquée, vous êtes attaqué, c'est difficile, vous êtes dans un lieu aride, mais le Seigneur nous donne sa paix, nous sommes rassasiés. Il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Quelle promesse, mes amis, quelle promesse! Et si vous me dites, oui, ça c'est une promesse comme ça, non, le livre d'Ésaïe et le chapitre 58, c'est tout entier consacré aux jeunes. Et dimanche prochain, nous verrons, nous prendrons ce chapitre-là et nous irons plus en profondeur et nous verrons les obstacles qui sont liés au jeûne. Il y a des obstacles qui nous empêchent d'entrer pleinement dans cette réalité. Nous prendrons le temps de nous y arrêter. Amen. Je vais juste prier pour remettre ce moment. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci pour cette réalité que tu nous parles encore ce matin sur le jeûne. Merci pour ta parole qui nous éclaire ce matin. Seigneur, que nous puissions passer de l'information à la transformation, vient enlever tout ce qui pourrait être dans notre cœur des obstacles, tout ce qui pourrait être des objections à ce que tu nous dis dans ta parole, à ce que tu nous invites à vivre avec toi. Seigneur, enlève toute peur, toute crainte par rapport à ça, enlève toute paresse aussi par rapport à cela, enlève aussi ce qui pourrait nous faire dire « mais ça va enlever ma joie, ça va juste compliquer ma vie », alors que c'est le contraire que tu veux au travers de cela. Seigneur, viens parler à nos cœurs encore, viens parler à ton Église, continue à nous faire grandir dans ta connaissance, la connaissance de ta parole, la connaissance de ta personne. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Seigneur, merci pour ton amour, parce que tu ne forces jamais, tu invites. Tu invites à faire un pas avec toi, un pas de plus, deux pas, trois pas, quatre pas. Seigneur, je veux faire encore un pas de plus avec toi. À mon niveau, on n'a pas tous les mêmes appels, les mêmes pas à faire, mais à mon niveau, tu veux m'inviter à faire un pas de plus dans ta direction. Merci pour le jeûne qui est ce moyen de faire un pas de plus dans ta direction. Amen.